Livraphone, avec l'aimable autorisation des éditions Bernard Grasset, présente Le pendule de Foucault, d'Umberto Eco. Keter, quand la lumière de l'infini.
C'est alors que je vis le pendule. La sphère, mobile à l'extrémité d'un long fil fixé à la voûte du cœur, décrivait ses amples oscillations avec une isochrone majesté. Je savais, mais quiconque aurait dû s'en rendre compte sous le charme de cette paisible respiration, que la période était réglée par la relation entre la racine carrée de la longueur du fil et ce nombre pi, qui, irrationnel aux esprits sublunaires, par divine raison, lie nécessairement la circonférence au diamètre de tous les cercles possibles, si bien que le temps de l'errance de cette sphère d'un pôle à l'autre était l'effet d'une mystérieuse conspiration entre les plus intemporelles des mesures, l'unité du point de suspension, la dualité d'une dimension abstraite, la nature ternaire du pi, le tétragone secret de la racine, la perfection du cercle. Je ne savais pas encore que, à la verticale du point de suspension, à la base, un dispositif magnétique, communiquant son rappel à un cylindre caché au cœur de la sphère, garantissait la constance du mouvement. Artifice destiné à contrecarrer les résistances de la matière, mais qui ne s'opposait pas à la loi du pendule, lui permettant même de se manifester. Car dans le vide, n'importe quel point matériel lourd, suspendu à l'extrémité d'un fil inextensible et sans poids, qui ne subirait pas la résistance de l'air et ne produirait pas de friction avec son point d'appui, eût oscillé de façon régulière pour l'éternité. De la sphère de cuivre émanaient des reflets pâles et changeants, frappés qu'elle avait été par les derniers rayons du soleil qui pénétraient à travers les vitraux. Si, comme autrefois, elle avait effleuré de sa pointe une couche de sable humide étendue sur les dalles du cœur, elle aurait dessiné à chaque oscillation un sillon léger sur le sol. Et le sillon, changeant infinitésimalement de direction à chaque instant, se serait élargi de plus en plus en forme de brèche, de tranchée, laissant deviner une symétrie rayonnée, comme le squelette d'un mandala, la structure invisible d'un pentaculum, une étoile, une rose mystique. Non, plutôt une histoire, enregistrée sur l'étendue d'un désert, de traces laissées par d'infinies caravanes erratiques. Un récit de lentes et millénaires migrations. Peut-être ainsi les Atlantes s'étaient-ils déplacés du continent de Mu en un vagabondage obstiné et possessif, de la Tasmanie au Groenland, du Capricorne au Cancer, de l'île du Prince-Édouard au Svalbard. La pointe répétait, racontait de nouveau en un temps très resserré, ce qu'ils avaient fait de l'une à l'autre glaciation, et peut-être faisaient encore, désormais messagers des seigneurs. Peut-être dans le parcours entre les îles Samoa et la Nouvelle-Zemble, la pointe effleurait-elle, dans sa position d'équilibre, Agartha, le centre du monde. Et j'avais l'intuition qu'un plan unique unissait Avalon, l'hyperboréenne, au désert austral qui abrite l'énigme de Ayers Rock. À ce moment-là, 4 heures de l'après-midi du 23 juin, le pendule atténuait sa vitesse propre à une extrémité du plan d'oscillation pour retomber, indolent, vers le centre, prendre de la vitesse à la moitié de son parcours, sabré et confiant dans le carré occulte des forces qui en marquaient le destin. Si j'étais longtemps resté, endurant le passage des heures, à fixer cette tête d'oiseau, cette pointe de lance, ce cimier renversé, tandis qu'il dessinait dans le vide ses propres diagonales, effleurant les points opposés de sa circonférence astigmatique, j'aurais été victime d'une illusion fabulatrice, parce que le pendule m'eût fait croire que le plan d'oscillation avait accompli une rotation complète, revenant au point de départ en 32 heures, décrivant une ellipse aplatie. L'ellipse qui tourne autour de son centre à une vitesse angulaire uniforme, proportionnelle au sinus de la latitude. Comment aurait-il tourné si le point avait été fixé au sommet de la coupole du temple de Salomon? Peut-être les chevaliers avaient-ils essayé là-bas aussi. Peut-être que le calcul, la signification finale n'aurait pas changé. Peut-être l'église abbatiale de Saint-Martin-des-Champs était-elle le vrai temple. Quoi qu'il en soit, l'expérience n'eût été parfaite qu'au pôle, seul et unique lieu où le point de suspension se trouve sur le prolongement de l'axe de rotation de la Terre et où le pendule réaliserait son cycle apparent en 24 heures. Mais ce n'était pas cette déviation hors de la loi, que d'ailleurs la loi prévoyait, ce n'était pas cette violation d'une mesure d'or qui rendait moins admirable le prodige. Je savais bien que la Terre tournait, et moi avec elle, et Saint-Martin-des-Champs et tout Paris avec moi, et qu'ensemble nous tournions sous le pendule qui en réalité ne changeait jamais la direction de son propre plan, parce que là-haut, d'où il pendait, et le long de l'infini prolongement idéal du fil, en haut vers les plus lointaines galaxies se trouvait, figé pour l'éternité, le point immobile. La Terre tournait, mais le lieu où s'ancrait le fil était l'unique point fixe de l'univers. Ce n'était donc pas tant vers la Terre que se dirigeait mon regard, mais là-haut, où se célébrait le mystère de l'immobilité absolue. Le pendule me disait que tout se mouvant, le globe, le système solaire, les nébuleuses, les trous noirs, et toute la postérité de la grande émanation cosmique, depuis les premiers éons jusqu'à la matière la plus visqueuse, un seul point demeurait, pivot, cheville, crochet idéal, permettant à l'univers de se mouvoir autour de soi. Et moi, je participais maintenant de cette expérience suprême. Moi qui pourtant me mouvais avec tout et avec le tout, mais pouvais voir cela. Le non-mouvant, la forteresse, la garantie, le brouillard très lumineux qui n'est corps, n'est figure, forme, poids, quantité ou qualité, et ne voit, n'entend ni ne tombe sous la sensibilité, n'est pas en un lieu, en un temps ou en un espace, n'est âme, intelligence, imagination, opinion, nombre, ordre, mesure, substance, éternité, n'est ni ténèbres ni lumière, n'est pas erreur et n'est pas vérité. Je tressaillis en entendant un dialogue précis et nonchalant entre un garçon avec des lunettes et une fille qui malheureusement n'en portait pas. « C'est le pendule de Foucault, » disait le garçon. « Première expérience dans une cave en 1851. » Ensuite à l'observatoire, et puis sous la coupole du Panthéon avec un fil de 67 mètres et une sphère de 28 kilos. Enfin, depuis 1855, il est ici, en format réduit, et il pend par ce trou au milieu de la voûte d'Arrête. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pendouille et c'est tout? Il démontre la rotation de la Terre, comme le point de suspension reste immobile. Et pourquoi reste-t-il immobile? Parce qu'un point, comment dire, dans son point central, écoute bien. Chaque point qui se trouve précisément au milieu des points que tu vois, bien, ce point, le point géométrique, tu ne le vois pas, il n'a pas de dimension. Et ce qui n'a pas de dimension ne peut aller ni à droite ni à gauche, ni en bas ni en haut, donc il ne tourne pas. Tu piges? Si le point n'a pas de dimension, il ne peut pas même tourner autour de lui-même. Il n'a pas lui-même. Mais si la Terre tourne? La Terre tourne, mais le point ne tourne pas. Si ça te va, c'est comme ça. Sinon, tu vas te faire voir, d'accord? C'est ses oignons. Misérable. Elle avait sur sa tête l'unique endroit stable du cosmos, l'unique rachat de la damnation du Panthéarei. Et elle pensait que c'était ses oignons et pas les siens. Et sitôt après, en effet, le couple s'éloigna. Lui, formé sur quelques manuels qui avaient enténébré ses possibilités d'émerveillement, elle, inerte, inaccessible aux frissons de l'infini, sans que ni l'un ni l'autre eût enregistré dans sa mémoire l'expérience terrifiante de leur rencontre, première et dernière, avec l'un, l'en soi, l'indicible. Comment ne pas tomber à genoux devant l'autel de la certitude ?